CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter CFM Radio, c'est l'heure de votre magazine en Tarn-et-Garonne, on est jeudi, on parle donc politique, c'est Politique Mon Vôtre avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, Arnaud Hillion.
Oui, Arnaud Hillion, conseiller municipal d'opposition à Montauban et conseiller communautaire également, mais aussi premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Tarn-et-Garonne. Bonjour Arnaud Hillion.
Bonjour Kader.
Merci d'avoir accepté notre invitation en ces temps agités, en ces temps politiques agités. Avec vous, nous allons revenir sur le scrutin présidentiel qui a eu lieu il y a quelques jours. Un mot sur, bien sûr, les tractations, les accords qui sont en train, signera, signera pas, ce qui se passe actuellement entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste Français et votre parti, le Parti Socialiste. Et enfin, un retour sur... Sur le retour, d'ailleurs, de Brigitte Barège à la tête de l'exécutif montalbanais. Première question, Arnaud Hillion. Sur la présidentielle, votre candidate Anne Hidalgo a recueilli un peu moins de 2% des votes. Comment, finalement, après ces jours, vous avez... comment vous expliquez ce score, d'ailleurs ?
Bon, je l'explique. Il faut être clair, c'est des électeurs qui
vous l'expliquez pas peut-être.
Si, je pense que les explications. Je lis moi aussi les commentaires, les retours sociologiques qui sont faits sur l'explication du vote. Donc il y a des explications. Enfin globalement, premier point, c'est une claque. Hein. C'est une claque que prend le Parti socialiste. Franchement, on n'a pas su convaincre nos électeurs. Donc ça c'est premier point. Soyons clairs là-dessus. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé sur cette élection ? C'est une élection qui n'a jamais vraiment commencé, où on avait des candidats, dont le sortant, qui n'était jamais vraiment en campagne. On avait le Covid, on avait la crise en Ukraine. Donc c'est une élection dans laquelle on a eu l'impression de ne pas avoir une expression médiatique possible, un débat contradictoire, une présentation de la programmatique. Et donc, c'est une drôle d'élection, comme on pouvait parler de la drôle de guerre, une espèce d'attente comme ça qui n'arrive jamais à son bout. Voilà. Donc après, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai fait campagne sur le terrain, j'ai distribué les tracts, j'ai parlé aux gens, j'ai décrit les propositions.
Justement, quand
et j'ai vraiment vu, voilà, sur les dernières semaines, un changement au moment de la cristallisation du vote, sur les deux dernières semaines, avec des électeurs qui nous disaient très clairement qu'ils allaient faire du vote utile, c'est l'expression qu'ils employaient eux-mêmes. Donc certains m'expliquant qu'ils voteraient Macron parce qu'ils ne voulaient pas risquer de voir le Front National en tête au premier tour, et d'autres qui m'expliquaient qu'ils voteraient Mélenchon parce qu'ils souhaitaient donner une chance à la gauche d'être présente au second tour. Voilà, donc l'explication qui après les enquêtes un peu sur post-vote, sur pourquoi les électeurs plutôt de gauche ont voté comme ils ont voté, elles expliquent ça. Le vote Mélenchon, par exemple, il est crédité d'à peu près une moitié de vote utile.
On va y revenir sur le vote Mélenchon. Arnaud Hillion, lorsque vous dites c'est une drôle de campagne, je reprends vos propos, c'était une drôle de campagne, une drôle d'élection.
Comme
une drôle de guerre. Mais est-ce que, in fine, vous, en filigrane, il y a cette idée que l'élection d'Emmanuel Macron serait illégitime quelque part ? C'est ce qu'on entend, c'est pour ça que je vous pose...
Donc là, je peux être explicite. Oui. Non, moi, je ne pense pas qu'une élection soit légitime. L'élection, ça sert à décider. Donc, au bout d'un moment, il faut trancher, on ne peut pas rester dans l'approximatif ou dans le flou. Donc à un moment, il faut trancher. Une élection, ça sert à ça. Et après, il y a divers modes d'élection possibles, c'est-à-dire des règles du jeu que nous donnons démocratiquement. Donc l'important, c'est que l'électeur soit mis au courant en amont de la règle du jeu, et ensuite, on se conforme au résultat. Donc là-dessus, le procès en illégitimité, franchement, là, j'y crois pas.
Ah, vous êtes clair, non, mais vous êtes clair, je voulais vous poser cette question, parce qu'il y a, de la part de certains décideurs politiques...
Macron est un adversaire politique. Je pense que le programme et le projet qu'il porte ne permettra pas d'améliorer la société. On a une société française qui est quand même assez abîmée.
Ouais.
Et je ne crois pas du tout à la capacité d'Emmanuel Macron à trouver les bonnes voies pour aller vers un mieux, pour apaiser cette société. Donc pour moi, c'est un adversaire politique. Je pense que vraiment, pour aller vers un mieux, pour la bonne voie, ce n'est pas la voie portée par Emmanuel Macron. C'est la voie portée par la gauche. Mais par contre, son élection est légitime.
Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, finalement, au fond, de la candidate elle-même ? Est-ce que la responsabilité de l'échec du Parti socialiste n'est pas celui d'Anne Hidalgo ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting, finalement ?
Alors, bon, certes, dans toute élection, le candidat, il a sa part de responsabilité. Et il est responsable du résultat de l'élection. Ça c'est un fait. Maintenant, réduire...
Non, mais peut-être que vous n'en seriez pas là.
Non, mais
je parle du Parti socialiste.
Il y a toujours, au moment où on fait des choix stratégiques ou tactiques ou politiques pour aller à une élection, ben on tranche encore une fois, souvent en interne, sur tel ou tel candidat, telle ou telle programmatique, etc. Mais réduire le résultat à la seule responsabilité du candidat ou de la candidate, dans ce cas-là, ça me paraît un peu à côté de la plaque. Donc peut-être effectivement qu'un autre candidat aurait fait une autre campagne et aurait conduit à un résultat sensiblement différent. Mais je ne pense pas que Anne Hidalgo porte le poids de ce résultat.
Non,
très franchement.
Pour rester sur Anne Hidalgo, mais on ne va pas faire une mission sur Anne Hidalgo, mais est-ce que vous, en tant que premier secrétaire fédéral du département, et avec vos autres collègues, vous n'avez pas alerté la direction du PS pour dire « attention, on va peut-être droit au mur ».
Alors, moi, je considère qu'une fois qu'on part en campagne, on fait campagne. Donc on se met d'accord avant. Et s'il faut, à l'intérieur, ça sert à ça, un parti politique. Les partis politiques sont très décriés, mais ont quand même une utilité. C'est d'organiser la démocratie dans le pays. Donc, on se réunit, on propose en interne des candidatures, et on vote, on tranche, on permet un débat, on regarde ce que les gens ont proposé, et puis on tranche, et on y va. Et une fois qu'on y va, on est derrière notre candidat, notre candidate, notre liste, et on pousse. Et on pousse parce que c'est nos idées. Donc, pour moi, non, je n'ai pas alerté plus que ça sur le problème de la candidate, comme vous l'exprimiez, parce que ce n'était pas le timing. Le timing, c'est une fois qu'on est en campagne, on fait campagne. Et j'ai fait campagne.
Vous avez fait campagne, Arnaud Hillon. Aujourd'hui, vous parliez de la gauche et de vos idées que vous souhaitiez voir s'installer dans le pays. Il y a une personne actuellement qui est au centre du jeu, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait... 22% à l'élection présidentielle. Est-ce que finalement, c'est lui qui est le recours à gauche ? Est-ce que c'est lui qui est capable d'incarner finalement ce que vous souhaitez pour le pays ?
Alors Jean-Luc Mélenchon au centre, ça m'arrache un sourire. Je ne pense pas que lui-même, je ne connais pas, mais je ne pense pas que lui-même se satisferait de ce positionnement centriste.
Non, j'entends. Vous avez bien compris.
J'ai bien compris. Donc de fait, le résultat de la présidentielle fait qu'à gauche, c'est lui qui fait le plus haut score. Donc ça explique pourquoi, effectivement, les autres partis de la gauche ont entrepris des discussions avec la LFI dans la séquence qui a suivi.
Plus que des discussions, en tout cas pour Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français qui ont officialisé leur accord Europe Écologie Les Verts, c'était quasiment dès le début des négociations. Le Parti communiste, avec un peu de retard, a suivi la marche. Et le Parti socialiste, votre parti, va vraisemblablement, selon toute probabilité, signer un accord. Il y a encore une étape à franchir, c'est celle du Conseil national auquel vous allez participer ce soir, un Conseil national à haut risque, à 19h. Je crois que vous réunissez tous pour prendre une décision. Est-ce que vous avez, vous, d'ailleurs, vous, est-ce que vous allez voter pour l'accord avec la France insoumise ?
Alors, vous avez un scoop. Moi, je suis en train de consulter mon conseil fédéral, c'est-à-dire le niveau fédéral, c'est le niveau départemental. Donc, c'est le Parlement des socialistes en Tarn-et-Garonne. Et donc, je suis en train de les consulter par une consultation en ligne, parce qu'on n'avait pas le temps de se réunir aujourd'hui, on est plusieurs à travailler. Donc, je suis en train de les consulter pour voir ce que les militants de Tarn-et-Garonne, représentés par le conseil fédéral, souhaitent faire. Et mon vote ce soir sera conforme au résultat de cette consultation.
Oui, alors vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Arnaud Hidan, vous, votre position, c'est laquelle? Est-ce que vous allez aller derrière Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous allez signer à titre personnel cet accord?
Attention, ce n'est pas aller derrière Jean-Luc Mélenchon. Hein. Là-dessus, il faut être clair.
Oui, mais enfin.
Là-dessus, il faut être clair. On a une tradition en France. Jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, d'être un pays bipartite, donc avec un parti dominant à droite, un parti dominant à gauche, et une alternance qui se fait d'un côté.
C'est plus tout à fait le cas. Mais bon.
C'est plus du tout le cas.
Oui.
Je veux dire, avec l'élection 2017 d'Emmanuel Macron, c'est ce qui a volé un éclat. Et nous sommes encore en train de subir les soubresauts de cet état de fait. Et on part donc là, maintenant, dans un pays. Alors, on verra ce que donnent les élections législatives. Si les élections législatives donnent une majorité à Emmanuel Macron, qui sera, même dans ce cas-là, sûrement très composite, selon ce que je peux regarder.
En tout cas, relative, vraisemblablement.
Oui, mais très composite. Je veux dire, apparemment, avec plusieurs. C'est plus que courant, en partie différentes.
Ça a toujours été le cas.
Si ce n'est pas le cas. Si la gauche l'emporte, on sera sur un système de coalition. Le système de coalition, c'est un système beaucoup plus à l'allemande, comme on dirait. Ça change tout. C'est une autre façon de fonctionner.
Mais ce n'est pas là la solution, Arnaud Hidan.
Mais ça l'est peut-être. Ça l'est peut-être. Par contre, ça demande un apprentissage. Un apprentissage que les partis actuellement n'ont pas. C'est nouveau pour eux, de fait. Et c'est un apprentissage aussi pour les électeurs. Les électeurs sont habitués à cette alternance droite-gauche, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on n'est probablement pas, quel que soit le résultat des législatives, dans une configuration de ce type-là. Et donc, dans une coalition, regardez nos amis allemands, quand ils élisent leur parlement, alors ils n'élisent pas leur chef de l'État, ils élisent leur parlement, dont est issu le chef de l'État, mais dans cette situation-là, ils commencent par discuter. Donc les partis élus, à un système beaucoup plus proportionnel que le nôtre, discutent programmatique. Hein. Ils ne discutent pas en 2 semaines, parce qu'ils prennent le temps. Des fois, ça dure 2 mois, 3 mois. Donc, et on discute sur des axes programmatiques sur lesquels on peut s'entendre pour mener une politique pour le pays. Donc c'est ça un système. C'est ça un système par coalition.
Et vous ne m'avez pas répondu.
Et donc, quand vous me dites se mettre derrière, ça, vraiment, ça n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas.
Mais est-ce que vous irez dans cet accord? Est-ce que vous êtes favorable à cet accord?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'attente qu'ont exprimé les électeurs, c'est, et ça, pour le coup, il y a le vote, mais il y a aussi ce qu'ils nous ont dit, c'est mettez-vous d'accord ensemble à gauche. Vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, on ne veut pas savoir, mais on veut que vous nous présentiez quelque chose qui permette à la gauche d'exister. Donc ça c'est tout ce que les gens m'ont dit, en termes crus des fois, sur le marché, en me disant, mais on s'en fiche, débrouillez-vous entre vous, et vous nous présentez un panorama, quelque chose d'uni. Donc, la demande, je crois, du peuple de gauche, si ça a encore de l'écologie, si elle a encore un sens, c'est celle-là. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça se fait, elles sont absolument pas plaisantes pour nous, surtout parce que cet accord national a une déclinaison locale qui n'est pas en rapport avec l'état des forces sur le territoire. Concrètement,
je comprends ce que vous voulez dire.
En Occitanie, oui. On a quand même l'impression d'être particulièrement présent, impliqué, avec des élus qui travaillent, qui sont au contact des électeurs, qui sont au contact des associations, qui sont au contact...
Et pourtant, la France insoumise vous a passé au laminoir, Arnaud Hidan. C'est une réalité. Sur 49 circonscriptions que compte la région, le parti socialiste n'en aura que 6 dans l'accord telles sont les informations que nous avons.
Si cet accord est ratifié.
Si cet accord
est ratifié. Vous avez les bonnes informations.
Alors, si cet accord est ratifié. Sur 49, est-ce que vous n'êtes pas. Quand je vous dis, vous êtes derrière Jean-Luc Mélenchon, vous avez souri, mais quelque part, il y a cette réalité.
Non, on n'est pas. Franchement, on n'est pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Si cet accord est validé, l'idée, c'est d'arriver à une coalition. Donc, l'idée, c'est d'exister avec un groupe politique à l'Assemblée nationale et de peser pour orienter une politique à gauche selon les valeurs que nous défendons, nous, les socialistes. Par exemple, un point très important pour nous, c'est la dimension européenne.
Alors, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste, qu'il sera vraisemblablement... selon les informations qu'on a, suivi par d'autres cadres du Parti socialiste. On parle de Stéphane Le Foll, de Jean-Christophe Cambadélis. Je ne sais pas s'ils ont encore du poids dans votre parti, mais ce sont des marqueurs pour votre mouvement. Carole Delga, hier, a soutenu des candidats hors accord, en disant finalement, moi, je fais ce que je veux. J'ai été la présidente de la région la mieux élue de France. Avec mon parti, le Parti Socialiste, et je m'assois, quelque part, je m'assois sur cet accord. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion dans votre parti, Arnaud Hillon ?
Premier point, cet accord n'est pas encore validé, puisqu'il y a cette validation ce soir, ou pas, par le Conseil national. Deuxième point, bien entendu, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour deviner que la situation qui sera celle, si ces accords sont validés jusqu'au bout, par la suite, ce sera des dissidences et des candidatures dissidentes partout. On entend, ouvrons la radio les matinales, et on entend un peu partout, sur le territoire, des candidatures dissidentes qui se feront lieu. Mais elles seront parfois issues du PS, parfois du PC, parfois des Verts, et etc. Donc parfois de la FI, sûrement. Donc c'est compliqué, je le répète, de passer d'un mode de fonctionnement politique qu'on a bien connu, qui est celui du bipartisme, à un système de coalition. Et c'est une nouvelle expérimentation.
Bien sûr, c'est une expérimentation. Il faut de la maturité pour ce genre de
coalition.
Il y aura
probablement, ce qui veut dire qu'il y aura probablement sur le terrain des couacs. En même temps, je le répète, parce qu'on m'a aussi interrogé là-dessus, sur la région Occitanie, effectivement, on a l'impression que c'est une région sur laquelle on travaille... bien, et sur lequel on fait, on est comment, très présent, et on est en défense de nos électeurs, et on a un accord qui nous saigne, effectivement. C'est difficile à comprendre pour les militants, et aussi pour les électeurs de gauche.
Pardon, Arnaud Hillon, je vous en prie. C'est pour accélérer, puisque j'ai d'autres sujets à voir avec vous, notamment sur Montauban, mais pour rester sur ce sujet, qui est très très important, sur l'ex-Midi-Pyrénées, il n'y a que Valérie Rabault qui conserverait, entre guillemets, encore faut-il gagner l'élection, mais qui conserverait sa circonscription, elle serait protégée.
Non, je pense que vous avez de bonnes informations.
Si, Valérie Rabault
il n'y a pas qu'elle.
Non, mais elle ne serait pas inquiétée dans le cadre de cet accord. Il y aurait aussi une députée de...
Il y a trois députés sortants, en l'occurrence.
La députée du Gers et le député de Haute-Garonne.
Absolument.
Valérie Rabault.
Donc, elle n'est pas seule.
Non, mais ex-Midi-Pyrénées, vous m'avez pas laissé finir.
Pardon.
Je parlais donc de Valérie Rabault pour le Tarn-et-Garonne.
Oui.
La députée du Gers sortante, mais qui ne se représente pas, elle, cette circo serait protégée. Et enfin, le député d'Haute-Garonne, cette circo serait protégée. Donc, trois circos sur l'ex-Midi-Pyrénées, ça fait très peu. Quid du siège de, entre guillemets, de Sylvia Pinel?
Alors par contre, le siège de Sylvia Pinel, sauf erreur, fait pas partie.
Enfin, non, il fait pas partie.
On ne négocie pas.
Non, mais je veux dire par là.
Le Parti socialiste n'est pas le parti radical de gauche.
Bien sûr, mais je veux dire.
Pour nous, pour moi, écoutez, pour parler sérieusement sur Circo 2, pour parler sérieusement sur la Circo 2 et vous répondre.
Vous m'avez tendu la perche, sur la Circo. Scription de Sylvia Pinel, il y a eu un accord unilatéral des responsables du Parti socialiste du Tarn-et-Garonne, de certains.
Pour la Circo 2, je peux vous répondre. Voilà. Pour la Circo 2, on a un positionnement très clair. La Circo 2, c'est une circonscription qui est potentiellement gagnable par le Rassemblement national. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il faut regarder les choses en face. Est-ce qu'on laisse la Circo 2 tomber au Rassemblement national ou est-ce qu'on fait en sorte qu'elle ne tombe pas au Rassemblement national? Donc là, bon, c'est très clair. On fait en sorte qu'elle ne tombe pas au Rassemblement national. Et donc, cela impose, cela oblige en responsabilité au parti républicain, et en particulier au parti de gauche et de l'écologie, à mon sens, hein, je vous donne mon sentiment, ça impose de proposer une candidature la plus large possible pour ne pas faire laisser ce qu'on sait qui se passera si on ne fait pas ça, c'est l'arrivée du Rassemblement national sur la Circo 2. Sylvia Pinel, c'est une députée sortante qui est légitime, qui a travaillé, qui est très claire sur son engagement contre le Rassemblement national.
Allez, alors nous, on tourne la page de la présidentielle des législatives qui nous ont pris assez de temps. On revient sur Montauban et le conseil municipal. Vous avez retrouvé une Brigitte Barège il y a quelques mois. Comment s'est fait ce retour? Est-ce que... on suppose que les choses n'ont pas été simples puisque vous avez communiqué auprès de la ville de Brigitte Barège sur les conditions de travail. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que vous avez pu vous entendre avec elle sur des conditions, votre place au sein du conseil municipal, vous auriez été...
Ah, pardon. Non, mais ça, c'est...
C'est un détail, mais quand même.
Non, c'est pas un détail, en fait. Ouais. C'est pas un détail parce que ça en dit long sur le personnage. Donc, ce sont des mesures vexatoires qui sont, à mon sens... Il y a une dimension grotesque à cette volonté d'humilier les gens physiquement.
Je rappelle pour nos auditeurs, parce qu'ils sont peut-être pas tous au courant.
Je peux le dire. Oui. Donc, pendant le Covid, on était placés dans une salle, on a fait deux salles, Marché-Gare et à Sapiac, dans des grandes salles pour respecter la distance. Là, on est revenu à la mairie, où doit normalement se passer le conseil municipal. Et donc là, prétextant du manque de place, on a toujours siégé en salle du conseil municipal, elle est petite effectivement, mais on trouvait notre place et une façon de s'organiser. Là, nous avons été placés, toute l'opposition, au piquet, au milieu de la salle. Alors la salle est en U, est en rond, et nous on était sur des petites tables au milieu, séparées. Et pire que ça, ça c'est de l'humiliation de bas étage, j'ai envie de dire. Mais pire que ça, pendant le conseil municipal, je me suis levé pour consulter mes collègues de l'opposition. Et ça c'est un droit. C'est un droit que nous avons de pouvoir nous consulter. Et c'est normal, quand on discute des affaires en cours, de pouvoir échanger. Et Brigitte Barège m'a refusé ce droit, m'a demandé d'aller me rasseoir à ma place. Et ça, voyez-vous, c'est contraire à la jurisprudence. Donc effectivement... on n'a pas eu de conseil municipal depuis. On a demandé un retour à des conditions normales de fonctionnement et d'accepter le minimum qui est le droit.
Est-ce que ça a été vos questions
Mais je vous l'ai dit, on n'a pas eu de conseil municipal depuis.
Non, mais elle aurait pu vous appeler.
Non, Brigitte Barège ne m'a pas appelé.
Non, elle ne vous a pas appelé pour...
Elle ne m'a pas répondu. Bon, elle ne m'a pas écrit. Elle m'envoie pas de mail.
Comment voyez-vous la suite de ce mandat? Est-ce que vous serez toujours dans l'opposition? Ou est-ce que tout ce qui se passe au niveau politique, quelque part, vous a sérieusement secoué? Vous avez un peu moins envie d'aller au combat politique, Arnaud Hillon?
Alors là, j'ai du mal à vous suivre.
Non, mais je vous pose la question, parce que vous avez quand même perdu des partenaires en route, puisque le Parti radical de gauche fait bande à part, Parti communiste de,
avec Rodolphe... D'accord, je comprends ce que je veux dire. Donc effectivement, on avait, moi je crois en l'union de la gauche et de l'écologie, je crois vraiment que c'est ce que les électeurs me demandent.
Vous aviez réussi à faire ça autour de votre personne.
Et je pense que ça enrichit le débat et la conduite des affaires, l'échange des points de vue. Donc je pense que c'est la bonne structure et l'ouverture à la société civile aussi, l'ouverture à des gens qui ne sont pas engagés politiquement. Je pense que c'est la bonne structure, en particulier pour des élections locales comme des municipales. Donc ensuite, si on avait réussi à gagner cette mairie, je pense que nous aurions très bien fonctionné avec ce système-là. Maintenant, on est dans l'opposition et un peu avant les élections départementales et régionales, mais surtout départementales, j'ai compris que nos partenaires souhaitaient pour certains reprendre un peu leur
liberté.
Leur liberté, je les cadenassais pas, hein, croyez-moi, c'est pas ma façon d'être. Politiquement. En particulier pour avoir des positionnements politiques sur les élections qui allaient arriver. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors, on continue à travailler très bien ensemble. On échange les infos, on prépare les conseils, souvent en discutant, en échangeant. Des fois, on ne vote pas pareil, on n'a pas exactement les mêmes points de vue, mais on continue à travailler vraiment main dans la main.
Arnaud Hillion, notre mission s'achève, mais vous reviendrez, on reparlera des sujets, notamment sur Montauban. Mais juste avant de conclure, est-ce que vous allez faire campagne activement pour législative? Est-ce que vous serez derrière Valérie Rabault, Arnaud Hillion? C'est une question que beaucoup de monde se pose, en fait, sur vos relations avec Valérie Rabault très vite.
J'ai les relations, j'ai envie de dire professionnelles, c'est pas une profession, mais j'ai des relations de travail avec Valérie Rabault.
Est-ce que vous ferez campagne pour elle ?
Mais bien sûr.
Oui.
Enfin, je veux dire, Valérie Rabault devrait être je veux pas parler à sa place.
Non. Donc, elle va venir là prochainement.
Très bien. Et donc, elle vous dira sûrement si elle est candidate ou pas aux élections législatives. Donc, je l'espère. J'ai tout fait pour que ce soit le cas. Et j'espère bien que ce sera notre candidate. Et dans ce cas-là, ce que j'appelle mes voeux, bien entendu, je ferai campagne pour elle. Mais c'est à elle qu'il faut poser la question de sa candidature.
On lui posera, Arnaud Hillion. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. On se retrouvera dans quelques jours.
Mais très volontiers.
Merci beaucoup.
Merci Kader, c'était Politiquement Votre, votre rendez-vous politique sur CFM. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Merci, au revoir.